Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir l'émission Profession philosophe enregistrée avec Elisabeth Fontenay le 26 octobre 2018. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par elle-même de la philosophe Elisabeth de Fontenay. Bonjour à vous.
Bonjour Agnès.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Comme prof de philo, qui a écrit des livres dans les interstices de la philosophie ou dans ses marges. Et voilà. C'est...
Quelle différence entre le philosophe et le professeur de philosophie?
Pour moi, c'est la même chose. Mais je ne me dis pas philosophe. Je n'aime pas quand on me présente comme philosophe. J'ai honte.
Honte?
Mais oui, parce que je pense à Leibniz, je pense à...
C'est-à-dire?
Je pense à Aristote, j'ai honte. Il y a très peu de professeurs de philosophie que je considère comme des philosophes, voilà. Mais en tout cas, pas moi, pas vraiment moi.
Mais pourquoi Leibniz et Aristote vous inspirent-ils de la honte?
Parce que c'est des très grands philosophes, à mes yeux, des immenses philosophes, j'aurai l'occasion de vous le dire, des immenses philosophes, à mes yeux.
Vous avez écrit plusieurs dizaines d'ouvrages sur le matérialisme de Diderot à Lucrèce, sur les animaux, les bêtes, comme vous aimez les nommer, qui constituent l'un de vos grands combats. Vous avez été présidente du comité d'enseignement de la Shoah, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et je vous propose, au cours de l'heure qui suit, de remonter aux origines de votre rencontre avec la philosophie, d'explorer vos sources d'inspiration intellectuelle et artistique, puis de pénétrer dans votre atelier de fabricante de concepts et enfin de vous suivre dans vos engagements militants. Ceci afin de comprendre ce qu'est le métier de philosophe. D'abord, est-ce un métier pour vous, philosophe?
Oui, c'est un métier au sens où Pascal disait qu'il n'y a rien de plus important que le choix d'un métier. Mais en ce sens pascalien, parce que l'idée de vocation ne m'est pas étrangère, pas la vocation au sens où Dieu appellerait, où Dieu vous appellerait à quelque chose, mais quand même l'idée qu'il y a l'appel d'une transcendance. Et quelle transcendance? L'obligation de la transmission de ce qu'on a reçu au plus grand nombre. Très PCF comme interprétation de la vocation.
Mais ça veut dire que la philosophie n'était pas un choix pour vous?
Si.
Mais si c'est une vocation, vous n'avez pas vraiment choisi. Elle est venue
voilà,
à vous.
Voilà, c'est exactement ça, exactement ça. Et je ne sais pas très bien quand j'ai fait ce choix, ça remonte très loin. Ça remonte à ma terminale probablement. Je ne peux pas dire quel événement a déclenché ça.
Mais est-ce que vous vous souvenez d'un texte ou d'un auteur ou d'une personne qui vous a transmis le goût pour la philosophie?
Alors, vous savez, dans mon temps, il n'y avait pas tellement de grands professeurs. Mais j'ai été très, très intéressée par les cours d'Alquier. Ça vous dit quelque chose?
Ferdinand Alquier.
Ferdinand Alquier, sur Descartes et sur Pascal. C'était un historien de la philosophie merveilleux. Professeur extraordinaire. Et par ailleurs, j'ai beaucoup suivi les cours de Ricoeur. Et c'est Jean Kelevitch, évidemment, qui m'a le plus marqué. Alors là, c'est par son œuvre, bien sûr, une œuvre extrêmement érudite et attachante. Érudite et attachante en même temps. Et puis aussi par sa personne.
Vous avez été son assistante?
J'ai été son assistante.
Dès 1967?
Oui, voilà. Et... On a fait 68 avec lui. Je me le rappelle, courant dans les rues de Paris, poursuivi par la police, criant hop, hop, hop. Ça, c'est inoubliable, oui. C'était un patron absolument délicieux, qui ne contraignait à rien. On pouvait faire ce qu'on voulait.
Un patron?
C'était un patron, oui. Le mot est pas obscène, quand même. C'était un patron. Mais un patron qui nous laissait tellement libres que c'était à peine un patron.
Vous voulez qu'on l'écoute?
Oui.
La philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir?
La philosophie, selon Jean Kelevitch, ne se justifie pas, l'acte même de philosophie ne se justifie pas par son utilité. Au contraire, aimait-il à dire, c'est sa gratuité, voire son inutilité qui la justifie. Dans quelle mesure est-ce que la conception que Jean Kelevitch se fait de la philosophie a inspiré la vôtre, Elisabeth de Fontenay?
Mais il était lui aussi, encore que extraordinairement érudit, extrêmement normalien, il était lui aussi un peu dans les marges de la philosophie. Pas au sens que Derrida a donné à ce mot, bien sûr, à ce concept. Des marges. Mais il était tout de même, par rapport à ses collègues, naviguant entre des écueils, des récifs qui n'étaient pas tellement les récifs de la philosophie, qui ne correspondaient pas aux apories de la philosophie. Voilà.
Il a écrit sur les vertus, sur l'amour, sur Bergson, qui sont quand même des thèmes reconnus par l'université.
Oui et non. Ces thèmes ne sont pas vraiment reconnus par l'université. Finalement, je crois que l'université ne reconnaît que l'histoire de la philosophie. Et je crois que l'université n'a pas tort. Parce que l'histoire de la philosophie, c'est la princesse des disciplines. J'en ai pas fait, pour ainsi dire pas.
Pourquoi ?
Parce que je ne me sentais pas assez douée. Enfin, j'ai fait un petit livre sur Diderot, peut-être qu'on peut considérer ça comme une histoire de la philosophie. Un livre dont je suis... Vous me demandiez quels sont les livres dont je suis un peu fière. C'est certainement le livre dont je suis fière. Je suis assez fière du Silence des bêtes aussi. Et puis, je suis un peu fière de mon dernier livre, Gaspard, de la nuit.
Dont on parlera dans un instant. Mais d'abord, restons encore à vos premiers pas en philosophie, la rencontre avec Jean Kelevitch, vous nous dites, est-ce qu'il y a d'autres philosophes contemporains, peut-être de Jean Kelevitch, qui ont compté pour vous à ce moment-là ?
Il y a Foucault.
Foucault.
Foucault a beaucoup joué. Je ne l'ai pas connu, personnellement. J'ai eu un coup de téléphone avec lui, juste.
À quel sujet ?
Vous voulez vraiment que je vous le dise ?
Ben oui.
Sur Israël. Sur le fait que le sionisme avait été, à la conférence de je ne sais plus quoi, de Durban, assimilé au racisme. Il était scandalisé. Et comme j'avais pris la tête d'un mouvement de... un mouvement de prix Nobel, aussi grotesque que ça puisse paraître, j'étais à la tête. On m'avait mise à la tête d'un mouvement de prix Nobel pour protester. Bien que non prix Nobel, Foucault m'avait téléphoné pour me dire à quel point il était d'accord avec ce mouvement de protestation.
Et qu'avez-vous fait ?
J'étais très très ému au téléphone. Terriblement ému d'entendre la voix de Foucault. Parce que j'ai eu une passion pour l'histoire de la folie. L'histoire de la folie, une passion. Ça m'a habité pendant plusieurs années. Derrida a énormément compté pour moi aussi. Énormément. Et Jean-François Lyotard. Derrida est juif et Lyotard a écrit des choses admirables sur le génocide des juifs. Et j'étais très de ce côté-là. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours habité profondément. L'extermination des Juifs d'Europe. Et ça fait que je m'éloignais un peu de Deleuze, par exemple. C'était pas un maître pour moi. Je parle de mes jeunes maîtres, là. Hein. Ils sont un peu plus âgés que moi. Je me suis toujours senti à distance de Deleuze, que je trouvais pas vraiment clair avec les Juifs. Et trop joueur avec le concept.
Trop joueur avec le concept. Pourquoi est-ce qu'il y a une rigueur du concept qui s'impose ?
Oui, bien sûr, il y a une rigueur du concept. Je ne dis pas que Deleuze manque de rigueur, hein. Sûrement pas. Mais le concept, qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation qui permet d'unifier la diversité de l'expérience. Et un concept, c'est quelque chose de général et d'abstrait. Extrêmement utile, indispensable, et qu'il faut pouvoir, bien sûr, exporter et importer. C'est fondamental dans le concept qu'il puisse, si je puis dire, aller et venir, mais avec certaines règles, en respectant certaines règles que je ne peux pas là définir. Parce que, mais par exemple, quand on se sert de concepts musicaux dans la philosophie, il ne faut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas s'en servir comme de métaphore. Et disons que cet import-export de concept fait que le concept est hors sol. Et je n'aime pas beaucoup le hors sol. Donc j'ai un petit problème avec les concepts. Peut-être parce que je n'ai pas les moyens d'en produire beaucoup. Il y a eu une époque après 68 où on produisait des concepts. C'était ridicule, c'était une période ridicule. Moi, je n'ai jamais produit de concept, et c'est peut-être pour ça que je considère que le concept est hors sol et qu'il faut tenir bon une expérience incatégorisable à certains moments.
Vous dites, après 68, on n'a pas arrêté de produire des concepts et c'était ridicule. C'est amusant de vous entendre dire ça de cette période qu'on présente souvent comme étant l'âge d'or de la philosophie, au contraire, en France.
Je ne parle pas des philosophes contemporains. Je ne parle pas de Lévi-Strauss, je ne parle pas de Derrida, je ne parle pas d'Althusser. Non, je crois que c'était dans les assemblées générales ou après, des petits philosophes qui parlaient de produire des concepts. Comme on produirait des automobiles.
Vous dites que vous n'avez jamais produit de concept, c'est vrai ?
Si, sans doute, ça m'a échappé.
Votre travail sur l'animalité est un travail qui a considéré les animaux en tant qu'êtres de chair, êtres vivants, on y reviendra évidemment, mais aussi comme un concept dans lequel, qui pourrait s'appliquer à l'humanité également.
Alors, c'est très compliqué ça, parce que si vous voulez, le concept, pour moi, c'est le psychisme. Il y a un psychisme animal, il y a un psychisme humain. Le psychisme, ce qui se dit en grec, l'âme, psyché. Alors, c'est ça le concept, c'est le concept de psychisme, qui existe chez Aristote, qui existe chez Leibniz, et qui existe chez Merleau-Ponty dans les leçons au Collège de France. Le concept, c'est le psychisme. C'est ça qui peut faire le lien entre les animaux et les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une coupure. Parce que vous savez, sans doute que je ne suis pas antispéciste. Je ne suis pas antispéciste. Je pense qu'il y a une singularité humaine, que le langage articulé est la marque de cette singularité humaine, et la responsabilité, l'effet du langage articulé, la singularité.
L'antispécisme, c'est ceux qui pensent qu'il n'y a pas de véritable différence de nature entre l'homme et l'animal. Dites, pour autant, pour tout l'intérêt que vous portez à la question animale, que ce sont deux espèces différentes.
Alors, non, parce que je suis darwinienne, je suis continuiste, je suis évolutionniste. Donc, je suis complètement pour la continuité. Mais, voilà, Il y a une émergence avec le langage articulé.
Encore un point sur cette question des origines. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'investir autant la question animale ? Est-ce qu'il y a eu un événement fondateur ? Une expérience particulière ?
Non.
Une rencontre ?
Non.
Vous êtes né avec cette idée-là ?
Je suis né avec les animaux, d'abord.
Vous êtes né avec les animaux ?
Avec des animaux, oui. Avec des chiens. Je suis né avec des chiens. Puis j'ai vécu beaucoup avec les animaux et les enfants dans une ferme en Normandie. Non, c'était le sentiment que la chose à faire pour être bien dans les interstices et pour être bien dans les marges, c'était travailler sur la question animale. Pas spécialement sur la question des femmes, mais la question animale.
Donc votre volonté était de rester dans les marges et les interstices.
Ah oui.
C'est un choix.
Ah oui.
Pourquoi ?
Parce que je suis une sans-mêlée. J'ai un père obro-normand et une mère juive russe. Ça crée un tas de contradictions, un tas d'étincelles. Ça rend plutôt intelligent que pas. Et ça donne envie de ne pas être dans le droit fil de la tradition. À aucun point de vue.
Et vous en avez souffert parfois ? De cette situation souffert, de côté
pas, souffert, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin j'en ai. Oui, ça a été une difficulté, ça a été à la fois une grande joie, une façon de n'être jamais là où on me mettait, et en même temps, certainement une difficulté sociale.
On va essayer de comprendre comment vous avez travaillé, comment ce parcours philosophique vous a accompagné toute votre vie. On va essayer d'entrer dans vos sources d'inspiration, dans votre tête ou votre cœur, selon l'endroit où elle se trouve. On va commencer par votre oreille, peut-être. Si on regarde de près, voici ce qu'on y entend. Qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter, Elisabeth de Fontenay?
Le quatrième des quatre derniers Lieder de Strauss, Capote crépuscule.
Interprété par Elisabeth Schwarzkopf. Et pourquoi cette musique en particulier?
Crépuscule. C'est l'infini de la fin. Mais c'est pas du tout l'illimité, c'est l'infini. C'est une expérience par la musique de l'infini. Voilà. Du retour au tout, peut-être.
Et de quelle manière la musique, ou cette musique en particulier, vous inspire-t-elle pour votre travail philosophique?
Pas du tout.
Ce sont deux choses différentes pour vous.
Ah, tout à fait.
Vous n'écoutez jamais de musique en travaillant?
Non, jamais. Ça me dérangerait trop, je pourrais pas faire les deux à la fois.
Mais ce que vous dites sur Strauss, ce chant qui pour vous évoque l'infini ou l'idée du tout, c'est une expérience que vous pouvez faire dans d'autres domaines, ou est-ce que seule la musique vous permet de faire cette expérience?
Oui, peut-être. Seule la musique me permet cette expérience, peut-être. Oui, parce que je ne suis pas très pour l'infini en général, en philosophie, ni pour le tout. Justement, j'essaie plutôt de fracturer. Et puis je suis matérialiste. J'essaie de l'être. C'est très difficile, mais j'essaie de l'être.
Ça veut dire quoi être matérialiste?
Alors, ne pas croire au sens, tout simplement. Ne pas faire des hémorragies de sens, comme dit Nietzsche. Tout simplement.
Ça veut dire que rien n'a de sens?
C'est se tenir sur cette ligne-là. Ne pas toujours tenir. Hein. Ne pas toujours tenir cette ligne, mais s'y tenir. Essayer de... Vous voyez, dans mon dernier livre, j'ai un petit peu craqué.
Votre dernier livre s'appelle Gaspard de la nuit.
Oui,
on le trouve aux éditions.
J'ai un peu craqué de ce point de vue-là, mais... C'est ça, le matérialisme, c'est ça. Je ne suis pas du tout pour un matérialisme positiviste, positif, réductionniste, du tout. J'ai horreur de ça, puisque je vous parle de l'émergence humaine. Mais voilà, c'est le matérialisme, c'est refuser le sens, refuser l'interprétation.
Mais alors à quoi sert la philosophie si on refuse le sens et l'interprétation? À décrire la matière?
Eh bien, elle consiste à veiller sur cette résistance.
C'est une résistance?
Ah oui, c'est une résistance. Chez moi, c'est une résistance, parce que tout me porte à trouver du sens. Sauf que, n'ayant pas de religion, pensant qu'il n'y a rien après la mort, ce qui n'est pas une idée très, très consolante, je reconnais, mais n'ayant pas de religion, c'est une manière d'être matérialiste.
Comme un exercice auquel vous astreignez, ne pas céder au sens, ne pas oublier que rien n'a de sens.
Oui. Mais en m'accordant à certains moments le droit de céder.
Quand ça?
Quand j'ai écrit ce Gaspard de la nuit, là, parce qu'il fallait que je survive.
C'est un livre qui s'appelle Autobiographie de mon frère. Mmh. C'est un récit composé de courts textes, presque des fragments, où vous parlez de beaucoup de choses, et notamment de votre frère, malade, autiste.
Oui, non, pas autiste. Enfin, il n'est pas diagnostiqué autiste, mais il est, comme les autistes, complètement coupé du réel. Complètement coupé du réel, et puisqu'on parle de philosophie, complètement coupé du principe de causalité. C'est extrêmement angoissant, pour la sœur que je suis, d'avoir affaire à quelqu'un pour qui la causalité, ça représente rien. Et être privé du principe de causalité, c'est la même chose que d'être coupé du réel et coupé des autres. C'est la même chose.
Et vous dites, j'ai craqué dans ce livre. Comme si vous aviez cédé au sentiment, parce qu'en fait c'est un livre poignant.
J'ai cédé au sentiment, oui, mais j'essaye... Comment vous dire? Je ne peux pas admettre que c'est ça... Et je souhaite de tout mon cœur que la médecine arrive un jour à comprendre ce qui se passe dans quelqu'un comme mon frère. Je suis sûre qu'elle y arrivera un jour. Mais en même temps, pour le moment, il faut fabriquer un peu de sens autour de lui. Fabriquer du sens. Mm-hmm.
Et qu'est-ce qui vous aide là à fabriquer du sens dans ce cas, dans le cas de votre frère ?
Avoir fait de la philosophie, certainement. Être capable d'écrire. Le désir de ramener le fils de ma mère à la communauté humaine.
On trouve juste à côté de Strauss, dans votre univers esthétique, un poème qui est en lien direct avec ce que nous venons de dire sur votre frère, votre dernier livre. C'est un poème de Victor Hugo, dans lequel il est aussi question d'un frère.
Puisqu'il plut au Seigneur de te briser, poète, puisqu'il plut au Seigneur de comprimer ta tête de son doigt souverain, d'en faire une urne sainte à contenir l'extase, d'y mettre le génie et de sceller ce vase avec un sceau d'airain. Puisque le Seigneur Dieu t'accorda, noir mystère, un puits pour ne point boire, une voix pour te taire, et souffla sur ton front, et comme une nacelle errante et d'eau remplie, fit rouler ton esprit à travers la folie, cet océan sans fond. Puisqu'il voulut ta chute, et que la mort glacée seule te fit revivre en rouvrant ta pensée pour un autre horizon, puisque Dieu, t'enfermant dans la cage charnelle, pauvre aigle, te donna l'aile et non la prunelle, l'âme et non la raison, tu pars du moins, mon frère, avec ta robe blanche. Tu retournes à Dieu comme l'eau qui s'épanche par son poids naturel. Tu retournes à Dieu, tête de candeur pleine, comme y va la lumière et comme y va la laine qui des fleurs monte au ciel. Tu n'as rien dit de mal, tu n'as rien fait d'étrange. Comme une vierge meurt, comme s'envole un ange, jeune homme, tu t'en vas. Rien n'a souillé ta main ni ton cœur, dans ce monde où chacun court, se hâte, se forge et crie et gronde. À peine tu rêvas.
Merci à Adèle d'avoir cité ce poème beaucoup plus longuement que je ne l'ai cité moi-même dans ce livre.
C'est l'avantage de la radio.
Il est finalement très beau.
Finalement ?
Finalement, oui. Il m'a semblé, quand je l'ai lu plusieurs fois, du mauvais Hugo. Mais bon,
là il est sublimé par la voix de Georges Clès. Oui. Vous écrivez à propos de ce texte, hein, « Je me sens déraisonnablement attaché à ce poème de Hugo qui se trouve dans les voies intérieures. »
Oui. Oui, parce que je suis attaché à ce poème pour une raison très médiocre, à savoir que il donne à son frère, qui est son frère aîné, son titre de vicomte d'Empire.
Vicomte d'Empire.
Oui. Et c'est magnifique. Parce que là, la folie de son frère n'a pas fait démériter de ce titre. Je suis très sensible à ça, mais c'est mon côté assez ancien régime.
Est-ce qu'il en va pour vous de la poésie comme de la musique ? C'est un autre régime de pensée, un autre régime de sensibilité ?
Oui.
Les frontières ne sont pas du tout poreuses entre ces disciplines pour vous ?
Non.
Alors on va voir, parce que je vais vous proposer un autre extrait qu'on trouve alors cette fois-ci qui prend beaucoup de place dans votre tête, mais aussi dans votre cœur. Écoutez.
This is your body. Can you say body? Good, but you need two hands to say body. Body. You have a nice body. Mm-hmm. Pretty.
Les tests de vocabulaire et d'intelligence sont formulés de trois façons. Par le geste, par la parole, puis les deux en même temps.
What's that? You just say what you see. What do you see there? What's that?
L'alligator est en bas à gauche.
I want you to find the alligator. You're kissing him. Coco kisses and points to the alligator. Coco. The bird in the basket. I'm only going to say it.
Troisième en partant de la gauche.
In the basket. She kisses it.
Les résultats de Coco sont légèrement inférieurs à ceux d'un enfant du même âge.
Okay, that's very good, Coco.
Quand Africa est là, enfant gigantesque, encombré de sa force, cette garbo des premiers âges qui ne sait pas être une garbo, la vérité c'est ça. Africa porte avec elle, en même temps qu'elle, une immensité, l'espèce, et dans son innocence et dans sa tragédie. Ne vois pas bien Africa, distingue mal. Quand le matin on lui demande « comment ça va ?», il arrive qu'elle réponde « sad ». On lui demande « pourquoi sad ?», elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle est sad aujourd'hui. Africa trace « sad » sur son visage, en langage sourd-muet, les deux doigts sur le chemin des larmes, ses lignes droites qui tombent des yeux vers le centre du monde. Merveille. Africa ne sait pas être triste d'une tristesse qui nous est commune à elle et à nous. Être triste de tristesse, mélancolique de mélancolie, au-delà de tout savoir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir la philosophe Elisabeth de Fontenay pour cet épisode de Profession philosophe, car c'est bien sa profession. Nous avons parlé de Jean Kelevitch, de Foucault, écouté du Richard Strauss. Et à l'instant, à la fois Coco, le film de Barbet Schroeder, et puis le texte que Marguerite Duras consacre à Africa, c'est le nom d'une gorille à qui l'on apprend à signer, comme le langage des sourds-muets. Et c'est un film et un texte qui vous bouleverse, Elisabeth de Fontenay.
D'abord, vous lisez très bien, Adèle.
Je vous remercie.
Vous lisez comme seuls les profs de philo savent lire.
Ce que pourtant je ne suis pas.
Vous n'avez jamais été.
Un peu, mais c'est l'émission est dans l'autre sens.
Alors, qu'est-ce que vous me demandiez?
Je vous interrogeais sur ce goût, voire même ce bouleversement que suscite en vous cette l'expérience même d'Africa décrite par Duras et de Coco décrite dans le film de Barbet Schroeder.
C'est quelque chose qui a rapport avec l'infini, justement. L'infini de la ressemblance, de la proximité et de l'éloignement. Les deux, en même temps. L'éloignement et la proximité. La proximité du lointain. C'est un texte qui me bouleverse tellement que j'ai pu dire à la fin de... le chapitre où je citais, que si Marguerite Duras avait pu écrire sur mon frère...
Son âme en eût semblé guérie.
Ah oui, c'est très audacieux.
Parce que audacieux, c'est le parallèle entre Africa, oui, la gorille, et votre frère Gaspard.
C'est très audacieux, c'est-à-dire et sanimitur anima mea, c'est-à-dire la formule même de la confession, de l'absolution. C'était quelque chose de très catholique, ce que j'ai dit là, de très transgressif catholique. Voilà. Et c'est essentiel chez moi. Je crois que l'écriture est un sacrement. Et Marguerite Duras elle a sauvé de l'animalité brute cette gorille, plus encore que celles et ceux qui lui apprennent à parler, plus encore.
C'est la littérature qui sauve la gorille les médecins, les accompagnants.
Bien sûr. Vous voyez, je ne suis pas tellement matérialiste quand je dis ça. Mais si, il y a sûrement moyen de prouver que si.
Vous dites ça comme pour vous rassurer. On a encore une exploration à faire dans votre constellation sentimentale, quoi que vous en défendiez quand même. Puis on reviendra plus précisément sur sa question de l'animalité et le parallèle que vous faites entre l'animalité et l'humanité. Puisque vous l'avez déjà fait, vous avez déjà comparé les bêtes à des corps humains, les bêtes à des corps malades. Donc on va y revenir quand on pénétrera dans votre atelier. Un dernier son, une dernière voix de quelqu'un qui compte pour vous. Le voici.
Réplique, les changements de Paris, avec David Chanterane et Jonathan Sixou.
Vous écoutez France Culture et non pas réplique d'Alain Finkielkraut, mais le chemin de la philosophie qui a plaisir à diffuser ce magnifique générique. Alain Finkielkraut, c'est d'abord votre amie, Elisabeth de Fontenay.
Depuis 40 ans. Il y a 40 ans que je ne me brouille pas avec lui.
C'est une belle définition de l'amitié, ne pas se brouiller avec quelqu'un.
Non, il y a plus. Il y a une origine commune, Il y a du viscéral commun.
Quel est ce viscéral commun ?
L'origine juive. Et on a le même rapport que l'un et l'autre à cette chose-là, à ce passé-là. Du reste, le même que Jean Kanevich, c'est-à-dire sans religion, sans foi, sans appartenance spéciale, sans paroisse, comme disait Jean Kanevich, sans paroisse.
Mais c'est une condition suffisante pour devenir ami ?
Ah, c'est une chose grave. Quand l'ami a ça, de commun avec vous, le viscéral, et qu'en plus il est intelligent, ce qui ne gâche rien. Oui, ça, voilà, ça. Alors, vous essayez de me faire dire que je suis d'accord avec certaines de ses idées ?
Pas du tout.
En tout cas, je me sens très française comme lui, ça c'est sûr. Je me sens française comme lui.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, se sentir française, comme lui.
C'est-à-dire que vous ne me ferez pas parler de l'identité française.
Hein. C'est vous qui en parlez. Pas du tout prévu.
Mais ça veut dire que je pense que l'idée de nation est très très importante. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que je suis pour une Europe des nations, comme les Le Pen, hein, bien sûr, mais... Il ne faut pas perdre l'idée de nation, avec l'idée d'une tradition de la nation, l'idée surtout de la tradition de la République.
Ce que vous partagez avec Alain Finkielkraut, c'est aussi cet intérêt pour les bêtes. Nous y revoilà.
Ah oui,
vous avez écrit ensemble un ouvrage sur cette
absolument.
Question.
Et je pense que j'ai eu de l'influence sur lui. C'est le seul point sur lequel j'ai eu de l'influence sur lui. Pour tout le reste, il ne m'en va pas mener. Il me présente ce que je dis. Mais sur cette question-là, je crois qu'on s'est très très bien entendu. Il m'a écouté. Mais je pense qu'il y avait déjà quelque chose en lui qui le portait vers les vaches.
Vers les vaches ?
Oui. Vous savez que sur le pommeau de son épée d'académicien, il y a le dessin d'une vache. Il faut le faire.
Et qu'est-ce que vous lui avez transmis sur cette question-là ? Vous dites, j'ai réussi à lui apprendre quelque chose.
Que l'élevage industriel était une horreur absolue. Et qu'il fallait mettre fin à ça. Et que la mise à disposition... des animaux, pour la boucherie en particulier, était un crime humain et immémorial, mais qui est de plus en plus criminel dans la mesure où il s'industrialise. Je crois que c'est ça qu'on partage profondément.
Mmh. Et la comparaison délicate entre des animaux qui sont transportés à l'abattoir et les déportés qui, à l'époque, étaient transportés vers les camps.
Vous savez, c'est une question dont je n'aime pas beaucoup parler, mais il y a dans le second Isaïe un texte où il est dit qu'on emmène le peuple juif comme des moutons à l'abattoir. Donc, il y a quelque chose dans la Bible qui permet ça. Par ailleurs, ça me semble une évidence. C'est une évidence. Mais je n'aime pas que la profère des gens qui ne sont pas au fait de ce qui s'est passé à Auschwitz, ou à Treblinka, ou à Sobibor. Voilà, je n'accepte pas que ce soit dit par n'importe qui. Mais moi, je peux le dire.
Vous voulez dire qu'il faut être juif pour pouvoir le dire ?
C'est pas ce que j'ai dit, Adèle. Attention, j'ai essayé de ne pas dire ça. Alors ne me faites pas dire.
Non, je vous pose la question.
Peut-être pas juif, mais avoir participé au destin des juifs d'Europe. Vous savez, mon idée est très simple. Si je me suis permis d'en parler, c'est parce que je considère que tous les auteurs juifs, écrivains ou philosophes, d'après la Shoah, ont tous fait ce parallèle. Adorno, Horkheimer, Isaac Bashevis Singer, Vassili Grossman, on pourrait parler de Romain Gary aussi. Tous. Alors, je passe par eux pour le dire. Je ne le dis pas, moi. Qui suis-je pour le dire ?
Mais iriez-vous jusqu'à dire, en revanche, que c'est cette comparaison troublante et la façon qu'a la mémoire juive d'habiter votre âme et votre corps qui vous a conduit à travailler sur la question de l'animalité ?
Peut-être. Sans doute. Sûrement. Mais j'ai pas envie de le lire.
Comment composez-vous de manière quasiment quotidienne dans votre travail avec ce de quoi vous êtes faite, votre, votre mémoire, votre passé, votre vie, la question de la Shoah qui vous occupe énormément, votre combat militant envers les animaux. Est-ce que ce sont des choses qui ont contribué à former la philosophe que vous êtes, ou est-ce que là encore vous... Finalement, vous séparez les choses comme vous séparez la musique de la poésie de la philosophie.
Ah non, je sépare les choses là, parce que le militantisme, je suis très peu militante. Je considère qu'avoir écrit, c'est une action en soi. C'est pas évident de traduire ça dans des actions politiques, surtout que les actions politiques sont assez violentes en ce moment, sont de plus en plus violentes, et que je récuse ça. Donc, si vous voulez, oui, je crois que je sépare. Pas au point d'être de mauvaise foi, d'être une hypocrite qui fait des belles phrases sur les animaux et contre la tradition philosophique qui les a méprisées et qui ensuite ne s'engage pas pour signer un texte. C'est pas du tout ça. Je suis pas traîtresse. À ce point-là. Mais je n'aime pas. Écrire est pour moi un acte politique. Voilà.
Et comment vous écrivez ? Est-ce que vous avez un rituel d'écriture ? Quand est-ce que vous décidez d'écrire ?
En lisant. Les idées me viennent en écrivant et en lisant.
Et vous écrivez sur le livre ? Vous lisez ?
Non, mais je souligne un peu. Je souligne ce qui n'est pas bien, ce qui ne se fait pas. Mais c'est sûr que je fais des petits ronds sur des paragraphes qui m'intéressent. Mais je ne peux écrire que si j'ai un rempart de livres.
Pour vous protéger de quoi ?
Oh, pas pour me protéger du tout.
Un rempart ?
Ah non, mais d'accord. Alors, je ne sais pas comment dire. Alors, mais ce n'est pas pour me protéger, c'est pour me nourrir. Alors, il faudrait que je dise une mangeoire de livres.
Peut-être un outil, justement, oui. Si on part du principe que quand vous écrivez, vous fabriquez quelque chose, il vous faut des outils.
Vous savez, ce que j'aime beaucoup chez Nietzsche, c'est que vraiment un philosophe qui fait comprendre qu'on ne peut rien comprendre à la philosophie si on ne lit pas des philosophes. On ne comprend rien à Nietzsche si on n'a pas lu beaucoup de philosophie. Et vraiment, Nietzsche fait comprendre ça extrêmement bien. Un philosophe ne peut écrire que sur les philosophes. Je ne crois pas qu'il puisse écrire directement sur le réel.
Ah bon ?
Ah non.
Mais c'est une histoire qui se mord la queue si les philosophes n'écrivent que sur les philosophes.
Mais non. Ça s'enroule, ça se déroule et ça va de l'avant et ça rampe, ça émerge. Ça, c'est extraordinaire.
Mais quand vous avez travaillé sur la question de l'animal, on vous disait au début mais que c'était une question pas du tout explorée pour les philosophes, et vous avez montré que si, précisément, par Plutarque, Montaigne, voilà, Bentham.
J'ai regardé derrière la tapisserie de la tradition philosophique. Vous savez, à Angers, il y a la tapisserie de l'Apocalypse, qui est splendide, et ils exposent l'envers de la tapisserie à certains moments. Et on voit un emmêlement de fils, c'est assez vilain. Et j'ai l'impression d'avoir montré l'envers de la tapisserie métaphysique. Et que cet envers, c'est des choses très, très grossières sur les animaux. Voilà.
Et vous avez affiné...
Au titre du propre de l'homme. Quand ça parle des animaux. Quand ça les prive de tout psychisme.
Quand vous décidez d'écrire sur ce sujet-là, par exemple, est-ce que vous observez d'abord, vous allez sur le terrain, vous faites des expériences, vous menez des enquêtes, ou est-ce que...
Ah, pas du tout.
Tout vient de votre pensée.
Ah oui, tout vient de mes livres. Tout vient de
vos livres. Viennent de vos livres.
Oui. Tout vient de mes livres.
Et vous écrivez dans la douleur, ou est-ce que vous avez du plaisir à écrire ?
Les deux.
Je vous pose la question parce que vous citiez Nietzsche dans la oui, préface
bien sûr,
du Gai Savoir.
Non, mais c'est ça, c'est bien sûr.
Nietzsche écrit ces quelques
oui.
lignes.
Oui.
Nous ne sommes pas libres, nous autres philosophes, de séparer le corps de l'âme, comme fait le peuple, et nous sommes moins libres encore de séparer l'âme de l'esprit. Nous ne sommes pas des grenouilles pensantes. Nous ne sommes pas des appareils objectifs et enregistreurs avec des entrailles en réfrigération. Il faut sans cesse que nous enfantions nos pensées dans la douleur et que maternellement, nous leur donnions ce que nous avons en nous de sang, de cœur, d'ardeur, de joie, de passion, de tourment, de conscience, de fatalité. La vie consiste, pour nous, à transformer sans cesse tout ce que nous sommes en clarté et en flamme, et aussi tout ce qui nous touche. Nous ne pouvons faire autrement.
Ne me demandez pas de commenter ce texte, parce qu'il est tellement, tellement parfait, vous l'avez tellement bien lu. Je voudrais dire un petit mot à ce sujet, c'est que j'ai toute une période de ma vie, j'ai fait des pièces de théâtre qui étaient des montages, pas des copier-coller, il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque, mais j'avais un pot de colle et des ciseaux, et j'ai fait une pièce qui s'appelait Diderot à corps perdu, qui était entièrement faite de montage de textes de Diderot, qui a été joué au Théâtre du Rond-Point et mis en scène par Barreau, Jean-Louis Barreau. J'ai fait aussi la même chose, un montage de textes de Michelet, qui avait pour titre Michelet à corps perdu, au Petit Odéon, la Comédie Française, qui a été joué, mis en scène par Simone Benmoussa. Et c'est très important dans ma vie, parce que j'ai compris que j'aimais tellement, non pas le théâtre, mais la préfération des textes, la lecture des textes, et que je ne me voyais plus du tout faire des commentaires, sauf vraiment s'il y avait quelque chose de très conceptuel à analyser. Je ne me voyais plus du tout bavarder, même philosophiquement, même intelligemment, sur ces textes. Et dans les dernières années de mon enseignement, je lisais beaucoup, beaucoup de textes à mes étudiants. Beaucoup.
Ça vous manque l'enseignement ?
Non. Non, j'ai une autre vie. J'ai une autre vie qui consiste à écrire. Et ça ne me manque pas vraiment. Ça me manque un peu quand même. Si vous voulez, ça me manque dans la mesure où j'aimais bien voir les mêmes étudiants toutes les semaines. Alors que j'ai horreur de faire des conférences. Mais horreur de ça. Je trouve ça grotesque. Je me trouve grotesque. Alors que je ne me trouvais pas grotesque comme professeur du tout. Vous comprenez ?
Donc pour vous, le métier de philosophe, vous avez quand même dit que vous étiez prof de philo, mais c'est d'abord dans l'écriture plus que dans l'enseignement.
Ah ben si, oui, enfin c'est les deux, c'est les deux.
Donc le récit que fait Nietzsche de l'absence de liberté du philosophe de choisir en fait avec quoi il écrit, vous y souscrivez.
Bah oui.
Cette
oui,
douleur qu'il compare à celle de l'enfantement.
Oui, c'est pour ça que je trouve que le concept est un peu hors sol par rapport à ce texte-là.
Mais une manière de faire de la philosophie qui n'est pas forcément celle de fabriquer des concepts alors, dans ce cas.
La philosophie ne consiste pas à fabriquer des concepts. Elle consiste à essayer de tirer une parole de l'expérience douloureuse.
Quelle qu'elle soit.
Quelle qu'elle soit.
Il y a une douleur à l'origine.
Ah oui.
Ça veut dire que l'écriture a un travail thérapeutique ?
Non. Non, l'écriture ne console pas, ne soigne pas. Elle donne statut. Elle donne statut dans l'être à ce qui est de l'ordre d'une expérience informulée, aveugle. Et la souffrance, c'est ça, c'est l'informulé, l'aveugle.
Mais c'est très intime.
Oui.
Pourtant, vous écrivez des livres qui sont lus par d'autres personnes. Ce geste qui consiste à écrire pour coucher sur le papier une douleur qui nous est propre.
Oui.
Quelque chose qui pourrait être soit impudique, soit encore plus douloureux.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas quoi vous répondre à ça.
Est-ce que ça engage la question du rôle même que vous pouvez vous attribuer en tant que philosophe dans l'espace public ? Oui. Est-ce que vous jugez que vous en avez un ? Et si oui, quel est-il ?
Vous posez une question, la question du philosophe, du rôle du philosophe dans la cité. Autrement.
Parce si vous voulez reformuler ainsi, oui.
Oui. Non, parce que je n'ai aucun. Vous savez, je suis très très modeste et j'ai une vie très modeste et une représentation très modeste de moi-même. Mais si vous me posiez la question du rôle du philosophe dans la cité, je vous répondrais que ce rôle consiste à ne jamais tomber dans le crime de favoriser le totalitarisme. Je parle à la fois d'Heidegger et de Bettiau.
Ce qui veut dire que, a fortiori, que le rôle des philosophes serait aussi parfois de prendre parole contre, et pas simplement pour.
Oui, mais d'abord s'abstenir de bénir le totalitarisme. Disons que je suis assez arendtienne sur ce plan-là.
Et vous mettez sur le même plan Heidegger et Alain Badiou ?
Sur le même plan, je ne sais pas, mais je pense que Badiou porte une responsabilité historique terrible dans sa défense du stalinisme, du maoïsme et du génocide. Cambodgien. Enfin, Pol Pot.
Est-ce que vous avez voulu lui répondre ? Est-ce que une conversation, un débat a pu avoir lieu ?
J'aurais pu lui répondre à Lille, vous savez, aux rencontres philosophiques de Lille, et puis il n'est pas venu au dernier moment. Il a fait faux bon. Je ne suis pas en train de dire qu'il avait peur de moi. Je l'ai toujours connu, Badiou, hein, on était étudiants ensemble. Je l'estime beaucoup sur le plan philosophique, immensément. Mais c'est pas bien ce qu'il a fait. Il a donné une très mauvaise image du rôle du philosophe dans la cité.
Alors comment faire pour lui redorer le blason ? Est-ce que le philosophe doit prendre parole dans l'espace médiatique ?
Non.
Je parle du philosophe en général, là, le rôle du philosophe.
Non. Faire ses cours correctement, c'est très important, faire ses cours correctement. Ne jamais manquer ses cours. Et évidemment, développer des principes démocratiques et républicains.
Est-ce que vous pensez à la postérité ?
Non.
Non ?
Je suis comme Falconet, le sculpteur Falconet, qui s'était disputé avec Diderot, parce que Diderot disait que son œuvre lui permettrait de ne jamais mourir. Non moriar, je ne mourrai pas. Et Falconet lui disait, mais mon pauvre vieux, moi je signe mes statuts pour qu'on me fasse des commandes, mais pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Donc je suis plutôt du côté de Falconet et de gagner un peu d'argent, plutôt que du côté de l'éternité.
Et si vous deviez proposer un terme, une question, une expression qui, sans doute une question d'ailleurs, qui résumerait ou qui ramasserait votre œuvre, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui vous a préoccupé toute votre vie, dans votre travail philosophique ?
La question de la dignité.
La dignité ?
Oui. Celle des hommes et celle des bêtes. J'ai, par exemple, horreur qu'on ridiculise un animal, qu'on lui mette des petits costumes, qu'on lui fasse faire des petits tours. Alors, la dignité humaine, bien sûr, aussi, et surtout. Mais les deux, la dignité humaine et la dignité animale. Je tiens au mot de dignité animale.
Ce qui est l'équivalent de la dignité humaine ?
Pas l'équivalent. Pas l'équivalent, mais ça ressemble. Quand je vous dis que je n'aime pas qu'on ridiculise un animal, je n'aime pas non plus qu'on ridiculise un homme, qu'on fasse honte à un homme.
Et la chose dont vous êtes la plus fière dans votre carrière philosophique ?
D'avoir été sur l'agrégation.
Ça tient toute une vie, n'est-ce pas ?
Oui, enfin bon, qui vous fait vivre toute une vie, qui vous nourrit toute une vie. Je suis un fonctionnaire de tel état grâce à ça.
Merci beaucoup, Elisabeth de Fontenay.
Merci à vous, Adèle.
Je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage, Gaspard de la nuit. On en a un peu parlé aujourd'hui aux éditions Stock. On se quitte avec une chanson qui est une interprétation d'un poème d'Aragon que vous citez. Dans votre livre, Il n'y a pas d'amour heureux, en voici l'interprétation par un groupe qui s'appelle Poum.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre festin. À quoi peut leur servir de se lever le matin? Eux qu'on retrouve au soir, des œuvres incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte en moi comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt mourir. Il n'y a pas d'amour.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo aujourd'hui, quel sujet avez-vous choisi Géraldine?
Eh bien, puisque nous sommes vendredi, je vous propose dès maintenant, à 10h50 minutes passées, de vous arrêter. Vous en avez envie, vous rêvez de ne rien faire. Enfin, après une semaine de travail, c'est le moment parfait. Arrêtez tout. Mais voilà. Tout arrêter, est-ce aussi simple et facile? Faites-en l'expérience ou rappelez-vous simplement votre dernier jour de congé. N'avez-vous vraiment rien fait? Ne vous êtes-vous pas agité et activé? N'avez-vous pas bougé? Comment donc réussir à marquer des arrêts, des pauses, des stations? Eh bien, c'est tout l'art de s'immobiliser que propose le philosophe Jérôme Lèbre dans un essai.
Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Ce n'est pas un geste prémédité. Ce n'est pas un geste d'ailleurs, mais une absence de geste. Un geste que tu ne fais pas. Des gestes que tu évites de faire.
Avant d'évoquer le livre de Jérôme Lèbre, il faut le rappeler, en littérature, au cinéma et en philosophie, les réflexions et les figures fourmillent pour évoquer cette idée de s'immobiliser. C'est L'homme qui dort de Georges Perec que l'on a entendu en version cinéma. C'est Alexandre le Bienheureux. C'est bien sûr Adèle Oblomov de Gontcharov, je le cite parce que je sais que vous l'aimez beaucoup.
Oui.
C'est L'oisiveté de Montaigne ou de Russell, c'est Le droit à la paresse de Paul Lafargue ou bien avant, c'est Le loisir des temps antiques. Et puis plus récemment, ce sont des revendications de changement de rythme, de déconnexion du monde qui va trop vite, des prières à l'ennui, des envies de repli, ce qu'on entend ou parfois ce qu'on peut lire par « slow life ». C'est d'ailleurs fou, en fait, de remarquer que les pensées et les appels au ralentissement, voire à l'arrêt, dessinent non seulement une définition mouvante et plastique de l'immobilité, mais peuvent sembler aussi de plus en plus nombreux et parfois même pressants. S'arrêter serait devenu une chose à faire, comme on coche une case dans une liste, ou même la chose à faire, la tendance du moment. Mais peut-on considérer l'immobilité comme une tendance, à voir le monde autour de nous et comme une tâche de plus à accomplir ? La demande est paradoxale et l'accomplir est encore plus difficile. Car oui, ne rien faire implique en fait un énorme effort. Celui déjà de faire face aux critiques de l'immobilisme, celui aussi de faire face à ce que l'on redoute, être empêché, stoppé, paralysé, que l'on pense par exemple au vocabulaire du travail, on est arrêté ou on a un avancement. Et enfin, le plus gros des efforts, celui de faire face à soi, de rentrer en soi.
C'est toujours très difficile de rentrer parce que dans l'état nomade, vous avez une mobilité non seulement géographique mais sociale incomparable. C'est-à-dire qu'on peut passer une nuit dans la hutte d'un charbonnier à bois dans les Carpates et puis la nuit suivante dans un château parce que la châtelaine vous voit au bord de la route avec sa Daimler et puis elle vous ramasse. Et, bon. Et quand on revient au pays... On est remis comme une pistache dans le nougat social à une place dont on ne peut plus bouger. Et c'est très difficile de conserver dans l'état sédentaire cette mobilité qu'on avait en voyage.
Ce que dit dans cette archive l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier résonne avec tout ce que l'on entend au fond par immobilité, à savoir l'immobilisme ou l'immobilité forcée, celle de la prison, des bancs d'école où l'on est obligé d'écouter, puis tous les Prométhées enchaînés, sans entendre en fait tous les possibles de l'immobilité, comme le rappelle Jérôme Lèbre, celle scientifique, éthique et politique de l'inertie, de la méditation, de la résistance ou du repos. Mais à côté de tous ces possibles de l'immobilité que l'on peut déjà connaître, que l'on peut même déjà avoir pratiqué, à côté de toutes ces activités immobiles qui nous révèlent que ne rien faire, c'est en fait déjà un effort, c'est un engagement, et que paradoxalement, ce n'est pas du tout ne rien faire. Eh bien, à côté de tout cela, de tout ce qui nous pousse à valoriser et à prôner l'arrêt et à nous allonger, eh bien, Jérôme Lèbre, lui, insiste sur une chose, sur une dimension, sur une figure de l'immobilité, être debout. Arrivez-vous à être debout, sans bouger, sans remuer? Avez-vous déjà essayé d'être statique? Eh bien, c'est pourtant la manière, la seule, d'être immobile. Pas de paresse, pas d'oisiveté, pas un loisir, mais l'idée de se tenir, d'être immobile dans le mouvement, sans s'agiter, de se maintenir à soi et pour soi sans vouloir s'absenter de soi, comme quand on dort, comme quand on résiste politiquement ou comme quand on médite par exemple. Et de citer ces mots, statique, 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 soyez statique, le mouvement est statique parce qu'il est la seule chose qui ne change pas.
Merci Géraldine, je retiendrai cette citation de Nicolas Bouvier que vous nous avez fait entendre, être comme une pistache dans le nougat social.
C'est joli.
Très beau, très parlant.
Alors je conseille de lire ce livre de Jérôme Lèbre, c'est Éloge de l'immobilité, ce week-end par exemple, c'est pas mal, ça vient de paraître aux éditions Des Clés des Brouwers.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Nicolas Berger, Thomas Beau, Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosneuf-Savoie, Mathieu Tarpin et Anaïs Isbert. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions autour du bouddhisme. Le bouddhisme est-il une philosophie? Qu'est-ce que le bouddhisme zen? À quoi ressemble être bouddhiste? Autant de questions auxquelles nous répondrons dès lundi prochain à 10h. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que la série d'émissions sur Hegel qui précédait, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie, enfin un site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, y trouver les indications bibliographiques et musicales. Vous pourrez également la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve lundi prochain à 10h précise. Nous, on sera là. D'ici là, passez un bon week-end et surtout restez à l'écoute sur France Culture.